Bonjour, donc je suis avec deux personnes du CEA, on est au MEDEC. Alors pourquoi le CEA au MEDEC aujourd'hui ?
Eh bien tout simplement parce que les médecins en une cinquantaine d'années ont vu les moyens à leur disposition fortement se développer, notamment en matière d'imagerie et de technologie appliquée aussi bien pour le médecin généraliste que pour les spécialistes. Il faut savoir par exemple que la radiographie, l'imagerie médicale a commencé par la radiographie au moment de la Première Guerre mondiale avec les premières radiographies effectuées par Marie Curie. Depuis, donc, ce domaine tout naturellement d'utilisation des rayonnements ionisants s'est développé et on a abouti à la mise au point des scanners, de l'imagerie par résonance magnétique. Et puis aujourd'hui, donc depuis à peu près un an, une nouvelle installation, Neurospin, près de Saclay, a été implantée pour faire de l'imagerie beaucoup plus fine que celle qui existait auparavant. Donc on a là une application qui se comprend bien et il faut que les médecins généralistes qui utilisent un certain nombre d'applications en soient conscients. En fait, avant d'avoir un outil à leur disposition, il y a toute une évolution dans la recherche, dans la mise en application d'un certain nombre de connaissances qui ont été faites.
Donc en fait, finalement, le rôle du CEA aussi est dans la recherche et développement sur des nouveaux produits, des nouveaux process qui vont avoir une application médicale.
Alors, il y a eu une évolution naturelle, c'est-à-dire l'utilisation des rayonnements ionisants, c'est initialement, ça a été l'imagerie médicale. Mais c'est aussi l'utilisation des rayonnements ionisants dans la thérapeutique. Et notamment, on utilise la radiothérapie par cobaltothérapie, par curithérapie, ou la radiothérapie métabolique. Donc, c'est déjà une extension au-delà de l'imagerie médicale. Donc, on sort complètement du domaine d'imagerie pour aller vers la thérapeutique, du diagnostic vers la thérapeutique.
Nous avons aussi d'autres applications. Quelles seraient les autres applications médicales ?
Alors, par exemple, les chercheurs qui travaillent sur des produits radioactifs ne peuvent pas travailler toujours au contact de ces produits. Ils sont obligés de travailler à distance, notamment avec des télémanipulateurs ou parfois il y a des obligations d'intervention à l'aide de robots. Donc ceci explique qu'on est développé, en fait on peut utiliser ces connaissances dans d'autres applications, notamment dans le domaine de la santé. Alors on va en prendre un par exemple pour la télémanipulation. Il y a un certain nombre d'interventions chirurgicales qui doivent accéder à des zones qui ne sont pas accessibles parce que les doigts du chirurgien sont beaucoup trop gros pour pouvoir accéder. Et en conséquence, on peut inventer tout un matériel de chirurgie avec des barillets, mais qui sont utilisés, donc qui pénètrent par des petites boutonnières dans la peau, qui vont donc pouvoir être positionnées à l'endroit où doit se dérouler l'intervention chirurgicale. Et le chirurgien, en fait, est à l'extérieur et utilise ces télémanipulateurs avec une petite caractéristique, c'est le retour de force, car quand vous intervenez à distance, il faut avoir effectivement à l'extrémité des doigts la sensation de force que l'on applique. Donc ça va être une application, par exemple, de la robotique, des télémanipulateurs. Mais vous avez aussi les utilisations, par exemple, des robots, notamment pour les handicapés, donc qui est un secteur d'avenir. Et notamment, vous avez dû voir ces robots qui, effectivement, sur une commande ou gestuelle ou même oculaire, vont aller chercher un gobelet et, par exemple, du jus d'orange, vont verser le jus d'orange dans le gobelet et vont aller le servir à la personne qui est handicapée.
Donc beaucoup d'applications sont effectivement issues de la recherche, mais comment déjà en arrive-t-on à cette recherche et comment aussi en arrive-t-on après au produit ?
Eh bien en fait, le CEA n'est pas un organisme isolé, il vit dans la société, il n'est pas coupé du reste de la société, et donc il y a des échanges avec le milieu extérieur, et au cours de ces échanges, il y a des demandes qui sont exprimées. Alors, on va prendre un exemple. Un jour, le chef de service d'un service d'orthopédie, donc le professeur Saillant, avait fait une demande à l'un des directeurs du CEA concernant la conception d'un disque intervertébral de synthèse. Donc c'était un projet pour concevoir un disque avec des caractéristiques très particulières, puisqu'il faut des caractéristiques de souplesse, de résistance. Donc, et par la simulation et par la connaissance des matériaux, on a pu mettre au point ce disque intervertébral de synthèse dont la production a été effectuée et la mise en place ensuite par le service du professeur Saillant qui a publié les premiers résultats il y a quelques mois. avec un succès, avec des effets, puisque j'ai vu moi-même quelqu'un du CEA qui avait été effectivement implanté. Voilà, avec succès, puisqu'il y avait une nette amélioration de sa situation.
Et donc, cela est sorti du laboratoire pour devenir réalité. Comment se passe donc le processus de production quand vous partez du brevet? Qui après développe le produit?
Alors, en réalité, le rôle du CEA, c'est de faire de la recherche, c'est de mettre au point une technologie pour aboutir donc à une production d'un produit qui réponde à un certain nombre de contraintes en matière de qualité et de sécurité. Si on veut un exemple, dans les aéroports, il y a des portiques de sécurité et donc pour assurer la sécurité des vols, il faut contrôler tous les passagers. Mais dans ces passagers, il y en a un certain nombre qui sont handicapés, qui sont en fauteuil. Ces fauteuils, ils sont métalliques. La difficulté, c'est que quand vous êtes en fauteuil métallique et que vous passez un portique de sécurité, eh bien, vous êtes contrôlé positif et vous déclenchez une alarme. Alors c'est un drame pour la personne qui est contrôlée. C'est aussi extrêmement gênant pour les gens qui contrôlent, parce qu'ils sont obligés effectivement de déplacer cette personne qui est handicapée et de contrôler donc le fauteuil roulant. Alors en réalité, c'est le cahier des charges qui avait été donné, c'est trouver un fauteuil qui puisse traverser effectivement ces portiques de sécurité sans déclencher l'alarme, mais en présentant des caractéristiques de résistance, d'être amagnétique et aussi de durer dans le temps, et d'avoir fait la conception du matériau et aussi la conception de la fabrication. Et ensuite, ce savoir-faire et cette technologie est transférée à une entreprise qui va fabriquer. Mais ça sort à ce moment-là du CEA.
Merci beaucoup, messieurs.
Merci à vous.